dialogue.
Sigikafoba.
Edowani wa makaran.
Le grand dialogue du Parlement avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux et l'appui financier de l'USAID.
Chenibiro.
Halud Mouni.
Chenibiri. Sigikafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes vendredi 31 octobre 2014. Bienvenue à ce grand dialogue, le grand dialogue du Parlement. Nous sommes au deuxième numéro de ce grand dialogue. Aujourd'hui, les thèmes débattus seront à l'accord entre l'UNTM et le gouvernement du Mali, les tensions dans le Nord et le virus Ebola. Alors, pour cela, nous avons quatre invités. Mohamed Aguintalla, député de Tenesakou du RPM. Yacouba Michel Kone du RPM, Eliouat Sikasso, Al-Kaidi Etouré du groupe VRD. Et nous avons également Madame Aïdara Seto, élue indépendante. Alors, je suis Famoussa Sidibé et Gagne Kanté est à la technique. Nous commençons directement avec le premier thème, les accords entre l'UNTM et le gouvernement du Mali. Ma première question, alors nous avons en ligne Mohamed Aguintalla, député élu à Tenesakou. On me fait signe que c'est pas encore le cas. Nous avons les députés Yacouba Michel Kone du RPM. Et Yacouba, dites-nous aujourd'hui si la satisfaction est totale par rapport à ces accords à la fois de la partie du gouvernement et des travailleurs.
Bonsoir et merci. Bonsoir à tous les auditeurs. Je pense que cet accord qui a été trouvé entre le gouvernement et l'UNTM est à saluer. Tout ce qui peut amener à la paix, à la tranquillité, à la sérénité maintenant, aucun effort n'est de trop. Et il le fallait vraiment. Je pense que le dialogue est une tradition chez nous ici. Quand on s'assoit, quelles que soient les difficultés, on doit être capable de se comprendre et de se surpasser et de mettre avant le Mali avant tout. Ce que nous vivons, chacun le sait. Et l'UNTM, c'est tout à fait normal, c'est un syndicat. Et pour qui connaît la définition d'un syndicat, c'est tout à fait normal. Ils ont une base derrière eux qui réclame un certain nombre de choses. Ils sont porteurs d'un message, du message de leur base. C'est tout à fait normal qu'ils comprennent. Mais à un certain moment aussi, c'est tout à fait normal également que le gouvernement leur donne les explications qu'il faut. Et je crois que c'est autour d'une table de négociation. Ça a été long, mais Dieu merci, ils se sont compris. Et vraiment, félicitations à toutes les parties.
Alors, certains pensaient que ce n'était pas le moment d'aller en grève au mois d'août dernier. Malheureusement, l'UNTM a observé cette grève, Al-Qaïdi. Quel est votre avis par rapport à ce parallèle que les observateurs ont voulu faire en disant que ce n'était pas le moment et que le pays traversait une crise?
Merci beaucoup. Et bonsoir, comme l'a dit mon ami Yacouba Michel. Et à tous les auditeurs, et bonsoir aussi à tous les invités. Et j'aborde dans le même sens, mais dire qu'il y a un moment, c'est comme quand on nous avait dit que ce n'était pas le moment de faire une motion de censure. Mais je crois qu'on revendique, chacun revendique. Si vous estimez qu'aujourd'hui ça ne va pas et que nous trouvons que ça ne va pas, je crois qu'il n'y a pas un moment pour dire à quelqu'un de faire ce qui est de son droit ou de son devoir. Je crois que ce n'est pas ça. Il faut arrêter ça. Les revendications, ça ne date pas de maintenant. Mais chaque fois, il y a des revendications. Mais ce que je voudrais simplement dire, c'est qu'il faudrait que le gouvernement et nos dirigeants comprennent que s'il n'y a pas de travailleurs, il n'y a pas d'État. Et vous leur demandez des performances, des résultats. Comment est-ce qu'on peut avoir des résultats si on n'est pas dans des conditions de travail et des conditions de vie? Donc je crois que quelqu'un qui réclame simplement des conditions pour mieux travailler, pour donner des résultats et des conditions pour satisfaire les besoins de sa famille, ce n'est pas trop. Parce que si les conditions y étaient, je crois que l'UNTM allait être sensible. Mais on ne peut pas parler chaque fois qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes. On est là pour résoudre le problème. Et je crois que le gouvernement, s'il y a des problèmes, c'est d'accord que c'est notre pays à nous tous. Nous devons tous être sensibles à ça. Mais je crois que je salue ce l'accord qui a été passé pour la simple raison que vraiment nous sommes dans trop de crises pour que nous continuions à faire un autre front encore qui va nous amener dans les rues et qui va nous empêcher encore de voir un peu plus loin.
Alors, ça a longtemps été silence radio. Nous, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu Madame Aïdara dans ce studio. Aujourd'hui, c'est chose faite, même si nous l'avons pris au dépourvu. Madame, dites-nous, vous êtes une ancienne militante des droits des travailleurs d'Afrique. Aujourd'hui, vous n'êtes pas en terrain inconnu quand on vous parle de ces accords entre l'UNTM et le gouvernement du Mali. Quel est votre avis sur cette situation?
Merci beaucoup. Bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir, chers collègues. Tu l'as si bien dit. Je fus syndicaliste et pas des moindres parce que j'étais d'abord affilié à l'UNTM, donc secrétaire général adjoint du syndicat des travailleurs et secrétaire général même du syndicat des transports aériens. Et c'est un secteur très sensible. Je sais que par moments, j'ai bloqué les avions sans préavis parce que, comme l'a dit Michel, quand il y a la base derrière qui a des problèmes et tu sais que ces problèmes sont légitimes, c'est tout à fait normal que tu réagisses. Mais je vais juste rebondir sur ce que mon collègue Al-Kaidi vient de dire. On ne peut pas mettre de côté le fait que le pays est quand même très sensible aujourd'hui. On vient de très, 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 très loin. On n'est même pas sorti encore des problèmes. Mais je suis vraiment ravie de constater qu'à la fin, il a dit quand même que ce n'est pas le moment de mettre les gens dans la rue. Donc, revendiquer, c'est tout à fait légitime. Mais l'essentiel est que, comme l'a dit Michel, les gens se sont mis autour de la table. Le gouvernement a certainement expliqué les problèmes parce que le Mali a un problème de communication aussi. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Parce que voilà, le Mali, généralement, que ce soit le gouvernement, que ce soit même les syndicats, que ce soit nous politiques, il y a l'assemblée. Un problème de communication. Moi, je n'ai pas peur des mots. C'est-à-dire que quand quelque chose me concerne, je le dis aussi. On a un grand problème de communication. Maintenant, l'Assemblée, ça s'améliore quand même parce qu'on a des tribunes.
Aujourd'hui, c'est difficile de mettre la main sur les députés pour pouvoir débattre.
C'est compliqué parce qu'aujourd'hui, les députés sont tous les fronts. Vous avez dit que longtemps, vous avez essayé de me mettre la main dessus. Mais moi, j'étais en Afrique du Sud. De là-bas, je suis venu à Paris pour faire une conférence à la francophonie. Après, je suis allé au HCR en Suisse pour faire une conférence. Parce que le tout ne se joue pas aussi au Mali. Il y a des problèmes au Mali, certes, mais il y a beaucoup de gens au Mali qui sont en train de régler ces problèmes-là. Donc, si tu as la chance de pouvoir régler les problèmes au niveau de l'extérieur aussi, je pense que ce n'est pas mauvais. Mais au niveau du Parlement, je veux dire qu'on a quand même un journal, on a une radio, ça commence quand même à aller. C'est un problème de communication. Sinon, le Mali est un grand pays. Les Maliens sont très sensibles et les Maliens sont très compréhensibles.
Alors, pensez-vous que le FMI pourra jouer son veto?
Mais moi, je pense que le FMI, moi, je n'ai pas peur de le dire. Je ne sais pas, vous dites que je suis syndicaliste, vous le savez. Et au moment où je faisais le combat pour Air Afrique, où la Banque mondiale a voulu se mêler de nos affaires, on avait marché sur la Banque mondiale. Et je crois que 5 ou 6 mois après, la représentante a même quitté le Mali. Donc, le FMI ne peut pas aussi poser son dictat à tout moment à nos pays. À un moment donné, il faudrait qu'on s'arrête et qu'on leur dise qu'on est quand même souverain. Même si financièrement, ils nous aident, il y a une limite. Parce que moi, je suis choquée de constater que le FMI se mette, par exemple, à faire des déclarations sur la télévision malienne pour parler de nos problèmes, pour les exagérer, pour les amplifier. Mais je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. C'est sûr qu'il y a des problèmes. Mais on doit rester indépendant. On ne peut pas accepter tout le temps qu'on nous mette le dictat. Donc, par rapport à l'UNTM et par rapport aux accords qui ont eu lieu, moi, je salue ces accords-là. Et je dis que dorénavant, il ne faudrait même pas attendre que les gens aillent en grève ou bien que les gens brandissent la menace de grève pour leur expliquer exactement la situation du pays ou bien leur expliquer exactement que le pays pense à eux, que le pays sait qu'il y a des revendications qui sont sur la table il y a longtemps, mais que la situation financière aujourd'hui ne permet pas de régler ces problèmes-là. Donc, je rejoins les autres pour dire que vraiment, je salue les accords qu'il y a eu entre le gouvernement malien et l'UNTM.
Alors, Akaïdi Touré, vous êtes du groupe VRD de l'opposition. Est-ce que vous comprenez l'incidence, les annonces de l'État malien disant que tous ces accords vont avoir des incidences? Et pensez-vous que l'État a les moyens aujourd'hui de supporter les incidences budgétaires aujourd'hui qui s'élèvent à près de 19 milliards sur le budget d'État?
Bon, c'est-à-dire, ne rentrons pas dans tous ces détails, mais je crois que si l'État s'est engagé à faire quelque chose, c'est que l'État a les moyens de le faire. Et l'État a les moyens de le faire. Il suffit simplement d'organiser. C'est ce que je suis en train de vous dire. On demande aux travailleurs de donner des résultats. Ils ne peuvent pas donner des résultats s'ils ne sont pas dans des conditions de vie et de travail. Et enfin, et que l'État aussi accepte enfin de laisser l'administration tranquille. Parce que tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est quoi? C'est que l'administration, là, elle est terrorisée. Il n'y a pas de carrière, de quoi que ce soit,
de plan de carrière,
il n'y a absolument rien. Et chaque fois qu'il y a un gouvernement vient, si vous n'êtes pas de ce côté, vous ne pouvez pas avoir de la promotion. On ne met pas les gens compétents là où il y a, on ne met pas les gens honnêtes là où et on dit on peut pas avancer dans ces conditions-là. Donc je crois que l'État a les moyens. Absolument. Je ne veux pas rentrer dans d'autres détails parce que si l'État a des moyens de faire ce qui est en train de se passer aujourd'hui, si c'est réel. Moi, je dis si c'est réel, parce qu'on est quand même à l'état de supposition. Mais je crois que tu prends 19 milliards, et il paraît qu'il y a des surfacturations pour 38 milliards. Donc, je crois que l'État a les moyens. L'État a les moyens. Pourquoi ? Parce que l'État a l'obligation de subvenir aux besoins de tous ses fils. Et les travailleurs, c'est l'État. Tant qu'il n'y a pas de travailleurs, il n'y a pas d'État. Ça, il faut qu'on le comprenne.
Alors, pour représenter l'État dans ce débat, nous avons un élu du RPM, Yacouba Michel Koné. Vous êtes élu à Sikasso. Quel est votre avis sur l'incidence de ces accords sur le budget d'État?
Je vous remercie. Je crois que c'est tout à fait normal quand mon ami Al-Kaïdi dit que l'État a le devoir de subvenir aux besoins de tous ses fils. C'est vrai. Et il a parlé des plans de carrière. Je crois qu'il faut revoir un peu, il faut faire un tour en arrière. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de problèmes qui se sont cumulés et qui ne relèvent pas de ces gouvernements, de ces périodes. Donc il faut aussi un peu peser les choses en disant que le Mali vient de loin et de très loin. Il y a eu des décennies de gestion, comme il l'a dit. Le gouvernement actuel hérite d'une situation qu'il faut gérer parce que l'État est une continuité. Et c'est pourquoi nous assumons, en tant que majorité, nous assumons vraiment ce que nous avons négocié. Maintenant, les moyens, comme il a dit, lorsque vous êtes en face d'une négociation qui, compte tenu de la situation sensible du pays et de ce que ça peut amener avant qu'on dise que c'est tard, je crois qu'il y a des efforts à faire. Sur le plan financier, bon, il y a la compétence qu'il faut. Il y a, à mon avis, au niveau de l'État, au niveau des services de l'assiette, je pense que le gouvernement sera à mesure d'honorer ses engagements. Seulement, il faut aussi un peu comprendre que nous avons besoin de communiquer. Parce que si je prends, comme l'a dit l'honorable Château, si je prends le coût du kilowattheure au Mali, il est en dessous de celui du Burkina. Ne parlons pas du Sénégal, ni de la Côte d'Ivoire. Donc, en fait, l'État, chaque fois l'État, chaque année, combien de milliards on met pour subventionner l'EDM? Le pouvoir d'achat du Mali est faible, c'est vrai. Et ça, c'est depuis l'indépendance. Quand nous avons quitté le franc CFA pour venir au franc malien, après on a quitté le franc malien pour venir au franc CFA, la bourse du travailleur a été divisée pratiquement par 4. Et donc, ça nous a ramené à un niveau tel que, vraiment, et c'est petit à petit qu'on peut combler ces vides.
Le vide.
C'est vrai.
Alors, je voulais juste que Mme Haïdara réponde à cette question sur l'électricité. Le FMI dit qu'aujourd'hui, le Mali produit à perte et que le coût de l'électricité peut être revu à la hausse. Est-ce que vous êtes de cet avis?
Je ne suis pas du tout de cet avis. Je pense que j'ai déjà donné mon avis par rapport au FMI. Nous sommes dans un pays souverain. Nous sommes dans un pays indépendant. C'est à nous de voir comment on peut faire. Parce que bon, si le coût de l'électricité actuel n'est pas élevé, et on peut trouver des subventions, comme l'État l'a toujours fait. Ils peuvent aussi augmenter sur la subvention. Mais ce n'est pas au FMI de demander. Parce que le FMI, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des choses comme ça. Après, maintenant, il y a des mécontentements. Après, les gens sont dans la rue. Après, le pays est par terre. Donc vraiment, pardon, le FMI n'a qu'à nous laisser gérer nos problèmes en tant que pays souverain et indépendant.
D'accord. Alors, nous allons passer à la deuxième partie de ce débat où Château est très attendu sur les tensions au nord. Mais juste avant, nous allons observer 2 secondes de pause.
Vous écoutez Studio Tamani? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Nous sommes le grand dialogue du Parlement avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux et l'appui financier de l'USAID.
Merci. Le grand dialogue du Parlement est à sa deuxième partie. La deuxième partie qui est consacrée aux tensions entre les groupes armés au nord du Mali. Vous pouvez également retrouver toutes nos productions sur notre site web www.studiotamani.org, sur notre page Facebook, comme vous l'avez entendu, ou bien sur les tweets. Alors, nous avons comme invité aujourd'hui pour parler du débat du Parlement, pour organiser ce débat du Parlement, Mohamed Aguintala. Nous n'avons pas pu rentrer en contact avec lui, Yacouba Michel Kone du RPM, élu à Sikasso, Al-Kaïdi Touré du groupe VRD opposition et une députée indépendante qui est là aussi.
Je ne suis pas une députée indépendante, je suis à l'UMRDA et du groupe APM.
Autant pour moi. Voilà. Madame Haïdara Château est là aujourd'hui pour rétablir l'équilibre du genre dans ce studio. Alors, les tensions entre les groupes armés dans le Nord, quelles conséquences est-ce que ces tensions vont avoir sur la paix, Madame Haïdara?
Évidemment que ces tensions-là vont avoir des conséquences sur la paix. Vous savez, nous nous sommes retrouvés dans une situation, je ne dirais même pas de bandits armés, mais c'est vraiment la jungle. Il y a des gens qui essayent de tromper tout le monde. Bon, sauf comme que, voilà, comme le MNLA par exemple, qui se dit non, nous sommes des républicains, nous ne sommes pas comme, même si on n'est pas du Mali, nous sommes des démocrates, nous on reconnaît la laïcité. Mais à chaque fois qu'il y a des problèmes, ils vont quand même chercher les djihadistes, se mettre avec eux pour faire les combats.
Vous savez, à quelle occasion est-ce que vous faites allusion?
Mais à Kidal, par exemple, quand le Premier ministre est passé à Kidal, mais il se targue la poitrine maintenant, comme quoi ils ont chassé l'armée malienne, mais tout le monde sait que jusqu'à 13h, l'armée malienne avait quand même le dessus. Il a fallu que les djihadistes se mettent dans la danse pour que, finalement, ils puissent arriver à leur fin. Donc, c'est une situation très, très complexe. Et je pense que aujourd'hui, on parle des accords. Je les salue. Moi, je crois que j'étais la plus vatanguerre que n'importe qui par rapport à cette situation.
Durant la transition.
Voilà, durant la transition, pendant l'occupation, pour dire vrai.
Alors, pourquoi on ne vous entend plus?
Mais ce n'est pas que vous ne m'entendez plus. Peut-être que tout ce que je fais n'est pas retransmis par vous, encore les journalistes, parce que aujourd'hui...
Est-ce qu'on est au courant?
Bien sûr que oui. Je viens de vous dire que je viens de faire une conférence sur femmes, jeunesse, conflit et francophonie en France à l'hôtel Marriott. Et la cassette était là. Moi, je sais que j'ai même contacté des gens, mais ce n'est jamais sorti. Il y avait des généraux autour de la table. Il y a des choses intéressantes qui ont été dites. Il y avait même M. Bouya qui était là. Mais bon, malheureusement, ça n'a pas été retransmis par la presse, parce que la presse, on ne les dicte pas ce qu'ils veulent faire. Hein. C'est sûr que c'était sur les réseaux sociaux, c'était indiqué qu'il y avait une conférence, il fallait le transmettre. C'est moi qui me pose la question. Mmh. Tout le monde a toujours dit que Château est l'ami de la presse, mais je crois que ce n'est plus le cas. Ce n'est pas à moi de dire à la presse de venir voir ce que je suis en train de faire. Les gens se trompent s'ils pensent que j'ai baissé les bras. Je ne suis pas du genre à baisser les bras. En général, quand je commence à me battre pour quelque chose, je vais jusqu'au bout, je gagne ou je perds. Donc, pour aller au sujet sur lequel on est en train de discuter, je pense que c'est très bien qu'il y ait des accords à Alger. Aujourd'hui, je suis dans la même position que tous les Maliens qui veulent aujourd'hui qu'il y ait la paix. Aujourd'hui, je suis dans la position de tous les Maliens qui ont dit qu'il faut que le Mali soit un et indivisible. Pour votre information, moi, j'ai beaucoup poussé pour que les gens de Gao, par exemple, se soulèvent et qu'ils disent non, il n'y a pas que Kidal qui doit marcher tous les jours pour dire pas Kidal, quand je dis Kidal entre guillemets, parce que ce n'est pas tout Kidal qui est d'accord avec ce qui est en train de se passer. Mais il y a eu souvent des marches de femmes pour dire à Zawad, nous, on ne veut pas du Mali. Mais à un moment donné, les régions dans lesquelles ça se passe, comme Gao, comme Tombouctou, il faudrait bien, même Kidal d'ailleurs, que ceux qui ne sont pas d'accord, qui se soulève aussi pour dire non, nous on veut un Mali un et indivisible. Après, je crois que ça fait quand même traîner de poudre. Il y a beaucoup de cercles qui ont marché et principalement Bamako. Je crois que ça a un peu équilibré les choses parce qu'on ne peut pas toujours tout imposer au peuple. Mmh. Le peuple malien sait ce qu'il veut. On veut bien les négociations, on veut bien les accords, mais parallèlement, il faut aussi traquer les djihadistes de manière impitoyable. Mmh. Il faut faire les deux ensemble parce que sinon on ne s'en sortira pas.
Alors Al-Kaïdi Touré, vous êtes de l'opposition. Aujourd'hui, pensez-vous que l'État malien soit sur une bonne voie en termes de sécurisation des populations du Nord avec ces tensions qui remontent?
Merci beaucoup, mais laissez-moi un peu revenir en arrière et répondre un peu à mon collègue. Parce que moi, je crois que les gens de la majorité, là, ils croient que nous ne sommes pas au Mali. Mais ils étaient où?
Quand?
Mais ils étaient où?
Quand?
Chaque fois, ils nous disent qu'on vient d'un trou. On vient d'un trou qui nous a mis dans le trou. Nous sommes tous mis dans ce trou-là. Ils étaient où? Ils étaient avec Ahmad Touadéré ici, à l'Assemblée nationale. Vous avez accepté son consensus. Et le président qui est en train de là, depuis ambassadeur en Côte d'Ivoire, président de l'Assemblée nationale, premier ministre, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse pour qu'il ne soit pas là? Le RPM donne l'impression comme quoi c'était un peuple du Mali qui existait ailleurs. Et qu'il n'est venu ici qu'en 2013 pour les élections. Arrêtez ça. Nous sommes mis dans le trou ensemble, si vous voulez.
Tout le monde va en sortir ensemble.
Voilà, ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent nous dire, ce qu'ils nous peuvent nous dire que nous savons les problèmes parce que nous les avons vécu.
Alors, la gestion de la crise.
Voilà, la gestion de la crise au Nord. Je vous dis que la crise au Nord, c'est la communauté internationale et la France qui nous ont mis dans cette situation où nous nous trouvons.
Et pourtant, l'aménagement
ne fait absolument rien.
Est-ce que son mandat peut lui permettre d'aller plus loin?
Mais son mandat, c'est quoi alors? Parce qu'on dit que l'aménagement est là pour les populations civiles. Mais si vous voyez des rebelles qui vont attaquer un village, vous ne les interceptez pas. Quel est votre rôle là, à ce moment-là? Qu'on nous dise qu'ils sont là simplement. Donc c'est ça le problème. J'ai dit que la situation au Nord, si ça continue comme ça, moi je ne sais pas comment ça va finir. Mais ce qui est là-bas, c'est une situation qui a été créée par ceux-là même qui veulent nous faire sortir de cette crise.
Alors, les groupes armés et la communauté internationale, à chaque fois qu'on demande, on pose une question sur la sécurisation des villes du Nord, on nous demande plus d'implication de la part des autorités maliennes, et on demande plus de présence de l'État malien. Est-ce que ce vide de l'État malien, vous partagez cette analyse Yacouba Michel, du RPM.
Bon.
Est-ce que l'État malien peut faire plus?
Comment l'État malien peut faire plus lorsque ceux-là même qui demandent à l'État de faire plus et sont derrière et ceux qui se rebellent? Je m'excuse, je partage parfaitement l'analyse de mon ami. En réalité, moi, je vois mal toute une région. Je ne connais pas bien le Nord, vraiment. Je suis allé une seule fois.
Vous êtes de Sikasso.
Mais je prends, moi, et chez moi, que 15 personnes au nord de Sikasso se soulèvent pour dire Sikasso est ceci, Sikasso est cela. Moi, je m'imagine. Sikasso, déjà, ce n'est pas une entité unique.
Comme qui est
Zegwa n'a pas les mêmes réalités que Mbessoba à Kuchala. Mbessoba n'a pas la même réalité que Yanfoila ou Kolon Djeba. Mais quand je vois, il y a une désinformation exprès de la communauté, de certains, pas tous, hein, pour faire croire que, en fait, c'est tout. Et quand vous voyez 2 ou 3 personnes, 15 personnes de Kidal, c'est la communauté, c'est tout Kidal. Ça, je m'excuse, mais 15 personnes ne peuvent pas représenter tout un cercle.
C'est la représentativité. Maintenant, l'action sur le terrain. Quels sont les moyens dont dispose l'État malien pour faire plus sur le terrain?
Bon, il faut faire une marche arrière. Les accords qui avaient été... Il y a des accords qui ont demandé à l'État de se désengager, d'être beaucoup moins présent, ce qui déjà n'est pas normal. Bon, ensuite, les événements sont allés de fil en aiguille. Les djihadistes ont occupé le Nord. Vous savez qu'on a égorgé des militaires. On a égorgé des paramilitaires. Bon, maintenant, les négociations sont venues, les gens sont revenus. L'administration, petit à petit, prenait pied. Bon, quand le premier ministre est parti, les djihadistes sont toujours aidants à l'affût du moindre choc, se sont présentés encore. Nous avons vu...
Tout ça, le résumé est connu. Hein, mais aujourd'hui, quels sont les moyens aujourd'hui de l'État malien pour pouvoir réoccuper ces zones?
Lorsque l'accord sera signé...
Donc, pas avant.
Mais déjà, je vous dis, l'administration n'est pas absente partout. Hein. Elle est... Peut-être, je ne connais pas le cas de Kidal. Mais moi, je suis allé à Tombouctou. Dans les cercles de Tombouctou, j'ai trouvé des préfets. J'ai trouvé des gendarmes, j'ai trouvé des policiers. Je suis allé à quelques kilomètres de Gao. je vous parle de ce que je sais, parce que je vous ai dit que je ne connais pas la région. Mais croire que l'administration ou l'État est absent dans c'est aussi faux.
Alors, quelqu'un qui connaît bien le Nord, je vais vous passer la parole après, hein, mais quelqu'un qui connaît bien le Nord, qui est même élu au Nord, au même titre que voilà, beaucoup, notamment Al-Qaïdi. Alors, c'est bien Madame Haïdara. Madame Haïdara, aujourd'hui, la communauté internationale et l'État malien demandent à ce qu'on fasse un distinguo entre les groupes armés et les groupes terroristes. Est-il possible, à l'état actuel des choses, de faire le tri?
Pas du tout. C'est ça le grand piège, justement. Je crois que j'ai commencé à le dire au début de mes propos. Et je dis, pour une fois, je suis très d'accord avec mon frère Al-Qaïdi. Et quand il dit que ceux-là même, et ça j'ai eu l'opportunité de le dire à Paris devant des généraux, hein, le problème qu'on a, c'est qu'il y a des gens qui disent non, on est venu aujourd'hui pour qu'il y ait la paix au Mali. On est venu, une force d'interposition, comme vous pouvez l'appeler, la MINUSMA, les forces françaises et tout ça. Mais au fond, les problèmes-là ont été créés par qui? Et ces problèmes sont entretenus par qui? Moi, j'ai l'habitude de dire que si la communauté internationale est sincère, la crise au Nord est finie dans un mois ou deux maximum. Parce que tant qu'on va faire le distinguo entre ceux qui se disent, démocrates, qui ne sont pas des djihadistes, et ceux qui se disent djihadistes, alors que quand il y a un problème, ils sont tous ensemble pour le combat, je crois que le problème, il ne va jamais être réglé. Ce n'est pas facile de faire le distinguo entre les deux. Parce que tu mets le boubou du MNLA aujourd'hui, demain c'est en sardine, après demain c'est Moujaou. Mais qui est qui? On ne sait pas. Et c'est ce qui rend la tâche difficile. Mais encore une fois, tous ces problèmes, on les a parce que cette même communauté internationale qui essaie de nous sauver aujourd'hui, vraiment a fait en sorte que le problème du Nord s'est enlisé. On s'est enlisé dans le problème. Maintenant, pour en sortir, il faut qu'ils mettent plus de moyens. Vous avez parlé des moyens de l'État. Vous le dites, vous êtes journaliste. Vous savez très bien que l'État n'a pas aujourd'hui les moyens de faire ce que vous voulez que l'État fasse. Aujourd'hui, les moyens se trouvent avec la communauté internationale. Cette communauté internationale a l'obligation de nous aider à sortir de cette situation parce que ce sont eux qui nous ont enfoncés. Donc ils ont l'obligation de le faire et il faut qu'ils aient une présence militaire plus importante que la présence actuelle qui est là. En dehors des négociations, même dans les négociations, ils peuvent peser. Alors, dans les négociations, il y a des choses, s'ils disent ça va se faire comme ça. Si alors, ça ne se fait pas, c'est qu'ils ne veulent pas que ça se fasse.
Alors, sur les négociations, justement, d'Alger, la coordination est sortie très frustrée des propositions que lui a présentées la médiation. Votre colistier était à Alger avec nous. Alors, est-ce que la restitution, on vous a fait la restitution par rapport à ce qui s'est passé, et est-ce que ces tensions prennent en otage le rendez-vous de novembre à cette assise?
D'une certaine façon, oui. Mais je pense que l'État malien est en train de trouver les voies et moyens avec les partenaires comme l'Algérie et tous ceux qui sont prêts aujourd'hui à nous aider à avoir quand même un document qui puisse faire sortir le Mali de la situation dans laquelle elle se trouve. Je pense qu'il y aura quand même une solution. Je suis optimiste. Hein. J'étais très pessimiste, mais je crois que je suis optimiste depuis une semaine.
Parce que la coordination est frustrée?
C'est très bien que la coordination soit frustrée. Parce que si la coordination est frustrée, ça veut dire au moins qu'ils ont peut-être un tout petit peu moins de soutien qu'avant. Parce que la vérité finit toujours par sortir. C'est-à-dire, comme on dit chez nous, l'ascenseur, il est rapide. Le mensonge, il prend l'ascenseur, mais la vérité prend les escaliers. Mais une fois que la vérité arrive, le mensonge disparaît. Donc on nous a trop roulé à la farine et je crois que maintenant, même la communauté internationale qui soutenait le MNLA commence à comprendre que le MNLA s'est joué de tout le monde.
Alors nous allons observer quelques secondes de pause avant la troisième et dernière partie consacrée au virus Ebola.
Une réaction?
Un avis?
Un commentaire?
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Le grand dialogue du Parlement avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux et l'appui financier de l'USAID.
Le débat du Parlement, nous sommes à sa troisième partie consacrée au virus Ebola. Je rappelle que le Mali a enregistré le premier cas de virus Ebola, un premier cas qui a été mortel, une petite fille qui est décédée à Kaye des suites donc de ce virus. Alors pour parler du Parlement aujourd'hui, quelques membres sont là. Yacouba Michel Koné, du parti RPM, élu à Sikasso, Alkaïdi et Touré du groupe VRD. Et nous avons également Madame Aïdara Chata Sissé, dite Château, qui est également avec nous. Alors, nous parlons du virus Ebola. Les dispositions ont-elles été correctement prises dans ce cadre-là, puisque la petite fille qui était malade a traversé pratiquement la capitale pour se rendre à Kaï, à 600 km de Bamako. Je m'adresse à Yacouba Michel Koné du RPM.
Bon, dire que les dispositions étaient bien ou mal prises, je ne saurais me prononcer là-dessus. Seulement, ce que je voudrais dire, c'est que cette fièvre à virus Ebola, il faut 21 jours pour qu'elle se manifeste. Et avant, vous êtes comme toute autre personne qui se déplace, aucun problème de santé apparent. Et donc, c'est difficile. Et si vous voyez aussi nos frontières à nous, elles sont poreuses. Je ne vois pas cet État africain qui peut se taper la poitrine, qu'il a la maîtrise de ses frontières. Ça, c'est un. Avec une maladie comme ça, qui apparemment, vous êtes bien portant, juste, même quand on vous met en quarantaine, c'est lorsque la température s'élève brusquement qu'on sait, ah, là, il y a alerte. Donc c'est pourquoi celle-là, avec sa grand-mère, a pu traverser, elles ont pu traverser et la frontière, venir à Bamako et se rendre à Kaï. C'est à Kaï que la maladie
s'est déclarée.
Donc c'est quand même difficile pour nos pays, que ce soit le Mali, les autres, de pouvoir maîtriser des cas comme ça tant qu'il n'y a pas la fièvre, semblerait-il. Tant qu'il n'y a pas la fièvre suffisamment élevée, c'est difficile de dire que la personne a cette maladie à virus Ebola.
Alors, Alkaïdi Touré du groupe VRD, groupe de l'opposition, alors pensez-vous que l'État a pris toutes les dispositions nécessaires à ce niveau?
Laissez-moi vous faire remarquer quand même que le studio Tamani aussi est dans la majorité. Parce qu'ils sont deux. Vous leur donnez suffisamment de temps, vous ne me laissez même pas parler. Et là, je ne suis pas d'accord.
Et là, je vous donne la parole.
Ah non, mais vous me donnez la parole, mais après combien de temps?
Vous avez la parole.
Voilà. Donc, je vais répondre.
Vous avez grignoté 5 secondes.
C'est-à-dire, même si vous voulez vous retirer la parole, ce n'est pas grave. Mais dans tous les cas, je vous dis qu'ils sont deux. Vous leur donnez suffisamment de temps, vous ne me laissez même pas parler.
Ça fait une minute que vous parlez.
Même si vous voulez vous m'arrêter, je l'ai dit. J'ai dit pour ce qui concerne Ebola. Parce que
c'est tout.
Non, c'est pas une question de 3 députés, c'est que vous avez suffisamment parlé.
Allez-y.
Bon, j'ai dit par rapport à Ebola, ce que j'ai dit, l'émission passée, je répète, il n'y a eu aucune mesure. S'il y avait une mesure, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va dire qu'on va former des gens. Je ne retourne pas sur ça parce que ça, c'est des choses, c'est trop clair, c'est trop flagrant. Depuis combien de temps il y a Ebola en Guinée? Depuis combien de temps? Et c'est maintenant que Ebola s'est manifesté qu'on forme des gens. Et tout le
c'est
monde
peut-être une formation continue.
Mais jamais. Il n'y a pas eu de formation. Il n'y a eu absolument rien. S'il y avait eu quelque chose, la fillette n'arriverait même pas à Bamako. Donc je ne reviens pas là-dessus. Mais je vais vous dire par rapport, je fais un retour en arrière pour vous dire. Le gouvernement n'a pas les moyens de maintenir la sécurité là-bas. Mais l'aménagement est là. Serval est là. Barkhane tout de suite
vous
là.
Nous ramenez en arrière.
Non, je vous ramène en arrière parce que vous ne m'avez pas laissé parler. Il suffit simplement que l'aménagement, que le gouvernement, l'armée malienne initie et que l'aménagement suit et que Barkhane donne les renseignements. C'est fini.
Ce qui est dit.
Voilà.
Virus Ebola.
Voilà. Le virus Ebola, je vous dis qu'il n'y a absolument rien. C'est maintenant qu'on est là-dedans.
Donc l'État n'a pris aucune disposition.
Qu'est-ce que l'État a pris? Dites-moi.
D'accord. Alors, nous allons donner la parole à Château pour parler de ce virus Ebola, justement. Alors, Château, votre avis sur les dispositions de l'État
Moi, je m'inscris en faux contre ce que Alkaïdi vient de dire. Parce que quand même, il faut se rappeler que dès que le problème Ebola a commencé à l'aéroport de Bamako, quand tu rentres ou quand tu sors, on prend ta température pour voir si tu n'as pas de fièvre. Mais ce n'est pas parce qu'un cas s'est infiltré qu'on va se mettre derrière ça pour dire que l'État n'a pris aucune disposition. Parce que quand même, aux États-Unis d'Amérique, qui sont les plus puissants au monde, il y a eu 2 cas là-bas. Mais dès qu'on s'est rendu compte qu'il y a eu ce problème, et puis ce problème, il ne vient pas du Mali. Moi, je dirais qu'il vient de la Guinée. Parce que la petite fille a quand même perdu sa maman en Guinée. Donc s'il y avait un suivi régulier en Guinée, on aurait pu garder tous ceux qui étaient en contact, comme le Mali est en train de le faire actuellement, tous ceux qui étaient en contact avec la maman qui est décédée, devaient être en quarantaine jusqu'à ce que la période d'incubation passe. Donc c'est à partir de la Guinée qu'il y a eu le problème. Mais dès qu'on s'est rendu compte, Dieu merci, je croise les doigts et j'espère qu'il n'y aura pas un autre cas, on a quand même pris les dispositions pour mettre en quarantaine tous ceux qui ont eu un contact direct avec la petite fille. Donc je dis quand même qu'il ne faut pas exagérer non plus. C'est vrai que Ebola est un problème. Nous, au niveau, parce que je suis au Parlement panafricain, au niveau du Parlement panafricain, on a fait une motion de soutien au chef d'État, une motion de soutien à tous les ministres de la Santé, à toutes les institutions, aux ONG qui se battent pour ce virus-là. Le virus-là, il est plus grave que le sida. Donc, au lieu de se donner des coups, il faudrait que chacun de son côté regarde qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation. Qu'est-ce qu'on peut faire en termes de prévention? Qu'est-ce qu'on peut faire en termes de je ne sais pas, moi, actuellement, on a le problème. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça ne se propage pas, pour qu'un autre Malien ne soit pas vraiment malade de Ebola. Et je profite de l'occasion aussi pour féliciter quand même le président de la République. Malgré tout ce qui est en train de se passer à Monrovia, en Guinée,
les frontières restent ouvertes.
Tous les pays qui ont des problèmes. Non seulement les frontières restent ouvertes, mais tout à l'heure, moi, j'ai été chercher un étranger à l'aéroport. On m'a dit que le président va, par solidarité, voir les dirigeants de ces pays-là pour les encourager. Je pense que c'est quand même des choses qu'il faut saluer et encourager.
Alors, on n'en parle pas assez, mais il y a une situation d'antipanique également sur laquelle les autorités tentent de communiquer. Alors, pensez-vous, Al-Qaïdi, vous êtes de l'opposition, pensez-vous que l'État également, sur ce volet-là, communique assez pour que la population soit rassurée?
Moi, c'est ce que je suis en train de dire. Château a beau dire que moi j'ai exagéré, je n'exagère rien, je dis les choses telles qu'elles sont. Mais le Mali, ce n'est pas l'aéroport. L'aéroport, c'est parce qu'il y a les patrons qui partent là-bas. Ne mettez pas un service de sécurité là-bas. Ne mettez pas. Ça, ce n'est pas à cause de Dieu. C'est parce que c'est là-bas que les patrons partent. Mais c'est en Guinée, c'est sur la frontière de la Guinée.
Mais les mêmes dispositifs sanitaires existent.
Il n'y a aucun dispositif, je vous en prie.
Les dispositifs
mais
existent.
Mais je vous en prie, monsieur. Je vous dis à Kai. Vous voyez la télévision comment on dit c'est maintenant qu'on forme les gens. Ils le disent. Il est déjà là, on
oui, nous avons
pas.
Organisé un débat savez, sur la question. Nous avons eu le directeur régional de la santé qui nous parle de formation continue.
Le Mali, c'est mon pays. Ceux qui tombent malades ici, c'est mes parents, qu'on le veuille ou non. Moi, je ne suis pas dans cette logique de majorité. Moi, je ne veux sauver la tête de personne. S'il y a eu des dispositions, on les dit. S'il n'y a pas eu de dispositions, il faut les dire. Il n'y a eu absolument rien à la frontière de la Guinée. Rien. Ce mot, les dit, je le maintiens.
Alors, M. Koné, Yacouba Michel Koné, vous êtes du RPM. Est-ce que vous portez également sur la même longueur d'onde que Al-Qaïdi?
Non, mais je m'excuse, mais je m'excuse en faux à propos de ce que mon ami vient de dire. Quand même dire qu'il n'y a aucune
disposition.
Lui, il est dans les secrets de Dieu. Je ne sais pas s'il a sillonné toutes les frontières pour dire qu'il n'y a rien eu. Il y a quand même eu des efforts, Al-Qaïdi. C'est-à-dire, non, entre nous.
Il y a eu des dispositions.
Il y a eu des dispositions.
Quand la maladie s'est manifestée?
Non, avant.
Non.
Non, ça je m'explique.
Alors, je pense que nous n'allons pas faire l'unanimité sur cette question, mais aujourd'hui, l'OMS parle de vaccins disponibles d'ici janvier. Cette date a été raccourcie. On parle du mois de décembre. Pensez-vous que le Mali pourra obtenir les vaccins à temps, M. Koné, du RPM?
Bon, je crois qu'il y a certains pays, dont le Mali, ciblé prioritairement. Et je pense vraiment que le Mali, et avec les efforts que nous allons fournir ensemble, et j'espère que Al-Qaïdi sera de cet avis, pourra disposer de ces vaccins. Parce que c'est le seul moyen salutaire pour nous épargner de cette maladie aujourd'hui plus grave que le sida.
Alors, Al-Qaïdi, est-ce que vous pensez que la communauté internationale, à travers l'OMS, fait assez pour appuyer les autorités maliennes dans la lutte contre ce virus?
Bon, moi, je crois que l'OMS va faire de son mieux. Mais ce qui est sûr, il faudrait que la communauté internationale aide tous les pays qui, aujourd'hui, sont victimes de cette mauvaise maladie-là. Et absolument, il faudrait les aider. Et c'est ce que j'ai dit. Depuis le premier jour, j'ai dit, aujourd'hui, il faut qu'on crie sur tous les toits et que les gens viennent nous aider. Et qu'absolument, quand il y a ces vaccins, qu'il y ait les pays solidaires et riches là. Parce qu'ils ont les moyens de le faire. Moi, je ne sais même pas ce qu'ils nous veulent, parce qu'ils ont les moyens. Mais si, je ne sais pas, c'est peut-être que ça aussi, ils veulent. Moi, en fait, on est sous tutelle. On est sous tutelle, même quand on doit mourir, il faudrait absolument que tu sois avec eux pour qu'on te traite. Ça, c'est très grave. Donc, la communauté internationale doit venir au secours du Mali. Et les autorités maliennes ne doivent pas avoir une honte en ça. Il faut dès maintenant qu'elles prennent quand même leur calebasse de machin pour aller chercher là où il faut, les fonds qu'il faut pour avoir les vaccins et pour encore prévenir cette maladie.
Al-Qaïda est-il satisfait du temps de parole qu'on lui a accordé?
Non, mais je suis très satisfait. Là,
merci beaucoup. Alors, Chateau, merci.
Enfin.
Alors, Chateau, dites-nous si aujourd'hui l'implication de la communauté internationale, je parle là de l'OMS, est suffisante à votre avis par rapport à la lutte contre ce virus?
Bon, suffisante, peut-être pas, parce qu'on sent quand même que la communauté internationale même est débordée quand même. Parce que quand on entend ce que les gens disent aux États-Unis, c'est vrai que le président Obama a dit que ceux qui pensent que dès que tu viens de l'Afrique de l'Ouest, il faut systématiquement te mettre en quarantaine, il trouve que ça, c'est pas la solution. La solution, c'est de traiter le mal à la racine. Donc, je vais dire que la communauté internationale est en train de faire des efforts et elle a l'obligation de faire des efforts. Al-Qaïda, ça, c'est pas pour nos beaux yeux, parce qu'ils ne peuvent pas nous empêcher de voyager. Et si nous, on a Ebola, on va amener Ebola chez eux. Donc, je pense qu'ils ont l'obligation aujourd'hui de traiter Ebola là où ça se trouve.
Absolument.
Et je ne vais pas conclure sans dire que quand même, que ce soit les guerres, que ce soit les maladies, les femmes sont toujours les premières victimes. Parce que bon, c'est quand même la femme qui va au marché, c'est elle qui fait à manger, c'est elle qui amène les enfants à l'école très généralement, c'est elle qui s'occupe des enfants quand ils quittent l'école. Donc je profite de l'occasion quand même pour faire un cri de cœur, peut-être en tant que présidente du réseau des femmes parlementaires, parce que les femmes parlementaires aussi, nous sommes les représentantes légales des femmes. Nous sommes en train, on a pris le devant aussi, hein, nous sommes en train de prendre des dispositions idoines pour voir comment on peut aider pour divulguer les mesures d'hygiène que les femmes doivent prendre afin que la maladie ne soit pas propagée. Donc, je lance un appel à toutes les femmes pour qu'elles se mobilisent afin de sauver nos maris, nos enfants et nos frères.
Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Nous allons donner la dernière tranche à Mme Haïdara Château-Sissé. Alors, vous avez accusé les médias de ne vous avoir pas suivi durant vos déplacements. Alors, nous allons vous demander de nous dire si aujourd'hui vous pouvez nous faire une restitution de ce que vous avez entrepris depuis tout ce temps à l'étranger pour que le Mali retrouve la paix.
Mais ce que j'ai entrepris, c'est ce que j'ai commencé, que je continue à faire. Je suis allée, par exemple, en Afrique du Sud. Je suis membre du Parlement panafricain. À ce niveau, j'ai proposé une motion, mais cette fois-ci pour les filles nigériennes qui ont été enlevées. Et suite à ce débat, il y a des journalistes qui étaient dans la salle qui ont été vraiment impressionnés par la façon dont j'ai conduit cette motion. Donc, ils m'ont demandé de faire une petite conférence avec eux pour leur expliquer exactement qu'est-ce qui se passe au Mali. Parce que c'est surtout un problème aussi d'information. D'ailleurs, ils m'ont proposé au mois de novembre de faire un grand événement avec un certain nombre de premières dames pour que je puisse venir exposer exactement les problèmes que les femmes ont connus et les problèmes que le Mali a connu de façon générale. Après, effectivement, il y a la francophonie qui m'a invité pour leur expliquer comment c'est arrivé, quel est le rôle des femmes, qu'est-ce qui a été l'impact de la crise sur les jeunes et sur les femmes. Vraiment, j'ai été très impressionné par ceux qui étaient là. Parce qu'effectivement, il y avait beaucoup de gens qui étaient autour de la table, qui ont donné, on a eu des informations et puis des débats contradictoires. Hein. Et ça, je l'ai dit tantôt, il y avait le représentant spécial de l'Union africaine qui était dans la salle et qui a quand même approuvé tout ce que j'ai eu à dire par rapport à ce qu'on a connu au Mali. Et dans la salle, il y a beaucoup qui étaient dépassés. Ça veut dire que jusqu'à présent, il y a des gens qui pensent que c'est le MNLA qui a raison. Il y a des gens qui pensent que c'est parce que le Mali n'a pas pris ses responsabilités. C'est parce que le Mali n'a pas développé le Nord. C'est parce que le Mali veut exterminer une race. Mais les gens, ils ont compris qu'effectivement, le problème n'est pas à ce niveau et il y avait quand même de la mauvaise foi, quelque part. Et après, je suis allé en Suisse pour voir le CICR. Je ne peux pas finir sans le dire. et pour voir dans quelle mesure ils peuvent nous accompagner afin que les réfugiés puissent retourner chez eux dans des meilleures conditions.
Merci beaucoup Château, merci à vous tous. Nous étions avec Mohamed Yacouba Michel Kone du RPM, Al-Qaïdi et Touré du groupe VRD et Madame Haïdara Aïssata Sissé, également députée à l'Assemblée nationale qui s'inscrit dans la majorité. Alors c'était le débat du Parlement qui prend fin. Gagné Kanté et Petit Diarra étaient à la mise en onde. Sekou Gadigo, Ousmane Diadé Touré étaient à la réalisation. Je suis Famoussa Sidibé. Nous vous disons bon week-end et à lundi pour un autre débat.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani Wamakaran.
Le grand dialogue du Parlement avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux et l'appui financier de l'USAID.
Chen Nibiru.
Halud Mauni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.